Pour bien comprendre la mort de Jésus, pour bien comprendre les textes, l'idéal, c'est de lire les quatre évangiles. Parce que les quatre évangiles se complètent. Et ce matin, on va regarder en deux séquences. On va regarder la partie jugement, puis après, on va parler de la partie crucifixion. Sur la partie jugement, je vais prendre les deux textes. Le texte d'abord dans Marc 14, à partir du verset 53, et dans Luc 22, à partir du verset 54. Donc Marc 14, à partir du verset 53. Jésus fut conduit devant le grand prêtre, chez qui se rassemblèrent les chefs des prêtres, des responsables du temple et les spécialistes de la loi. Pierre l'avait suivi à distance, jusqu'à l'intérieur de la cour du palais du grand prêtre. Il était assis avec les gardes, près du feu, pour se réchauffer. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais ils n'en trouvaient pas, car il y avait beaucoup de gens pour apporter des faux témoignages contre lui, mais ces témoignages ne concordaient pas. Finalement, quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je démolirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en reconstruirai un autre, qui ne sera pas fait par des mains humaines. » Mais même là-dessus, leur déposition ne s'accordait pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus. « Eh bien, demanda-t-il, tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ?» Mais Jésus garda le silence et ne répondit pas. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui demanda « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui répondit « Oui, je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire avec les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en concluez-vous » Tous alors le condamnèrent en le déclarant passible de mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Ils lui recouvrirent le visage et le frappèrent en lui disant « Eh, fais le prophète, qui sait ?» Les gardes saisirent Jésus et lui donnèrent des gifles. Pendant ce temps-là, Pierre était en bas dans la cour intérieure. Une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait et le dévisagea. Elle lui dit « Toi aussi, tu étais avec ce Jésus, ce Nazaréen. » Mais Pierre le nia en disant « Je ne vois pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit de la cour et entra dans le vestibule. Alors un coq chanta. Mais la servante le vit et recommença à dire à ceux qui se trouvaient là « Il fait aussi partie de ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui se trouvaient là redirent à Pierre, « C'est sûr, tu fais partie de ces gens. D'ailleurs, tu es Galiléen. » Alors il déclara, « Je le jure et que Dieu me condamne. Si ce n'est pas vrai, je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Dès l'aube, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les responsables du peuple, les spécialistes de la loi et tout le grand conseil. Ils firent enchaîner Jésus, l'emmenèrent et le remirent entre les mains de Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?»« Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit, « Eh bien, tu ne réponds rien. » Tu as entendu toutes les accusations qu'ils portent contre toi. Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus rien. À chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait, sous les verrous, un nommé Barabbas, avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur que le gouverneur lui accordait d'habitude. Pilate répondit, « Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ?» Il s'était rendu compte en effet que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. Mais alors insista Pilate, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau ils crièrent, « Crucifie-le ! Qu'a-t-il fait de mal ?» Et cependant, eux cependant crièrent de plus en plus fort, « Crucifie-le ! » Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha. Et après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie, pour qu'on crucifie Jésus. Alors, c'est vrai que les évangiles se complètent beaucoup parce qu'en fait, Marc va évoquer le jugement du Christ, mais dans les autres évangiles, notamment celui de Luc, on retrouve aussi un passage de Jésus devant Hérode. Jésus ne passe pas uniquement devant Pilate et les chefs juifs, mais il passe aussi devant Hérode. C'est pour ça que c'est très, très important de lire les quatre évangiles, parce que les quatre évangiles se complètent et pour bien comprendre ce que Jésus a fait pour nous, il faut bien lire la parole. Vous savez qu'une des premières attaques du malin qui est très puissante, c'est notre incapacité à un certain moment à lire la parole. Si on pouvait nous dire combien de temps avez-vous passé dans votre vie à suivre des feuilletons télévisés, ça se compte en années. Mais si on dit combien de temps avez-vous passé dans la lecture de la parole, j'ai peur que ça ne se compte pas en années. Donc, il faut lire la parole. Pour bien la comprendre, pour bien la mettre en pratique, il faut la lire. C'est vraiment nécessaire de lire la parole. Et un des exercices que vous pourrez faire, c'est de lire les quatre évangiles avant la fin du mois. Puisque nous sommes sur Jésus-Christ, donc, pour bien comprendre Jésus, il faut avoir lu les quatre évangiles. Jésus se retrouve d'abord devant les chefs religieux. Il est d'abord devant les chefs religieux. Et souvenez-vous que les chefs religieux sont ceux qui sont jaloux de Jésus parce que Jésus fait des prodiges. Jésus est suivi par des foules. Tous ces chefs auraient voulu aussi être dans la même position. Mais ils avaient oublié que c'est Dieu qui agit en nous. Et cette puissance qu'avait Jésus venait d'un point central. Jésus était obéissant à Dieu. Lorsque tu es obéi à Dieu, Dieu te revêt de puissance, c'est normal. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui te revêt d'impuissance. C'est le malin. Les chefs religieux vont porter des accusations de jalousie. Ils vont être malhonnêtes vis-à-vis de Jésus. Il y en a même un qui termine en déchirant ses habits. Vous vous rendez compte? Il dit c'est un blasphème. Tu déclares que tu es fils de Dieu. Il déchire ses habits. Je vous rappelle que la majorité de ces gens étaient habillés de façon extrêmement élégante parce que c'était une société dans laquelle on reconnaissait des prêtres à des kilomètres. Juste par la façon dont ils sont habillés et aussi par la façon dont ils priaient parce qu'ils s'arrêtaient au milieu de la foule pour prier. Et tout le monde était là en train de dire « Ah, ces gens sont tellement merveilleux !» Incapables de voir que Christ est devant eux. C'est une incapacité. Hein? Ils sont saisis de cécité spirituelle. Comment ne pas reconnaître le Fils de Dieu? Parce que le Fils de Dieu ne s'annonce pas. C'est celui qui en face qui le reconnaît. Et c'est surprenant parce que dans le jugement, l'Esprit de Dieu les emmène à dire, comme Pilate, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Pilate va appeler Jésus le roi des Juifs. Voyez-vous, la particularité de ce jugement, c'est que ceux qui pensent juger Jésus sans à ce moment-là juger eux-mêmes. Parce que là, la condamnation tombe. Vous pourrez lire Ézéchiel 34, la prophétie se réalise. Ceux qui encadraient le troupeau n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour encadrer Israël. Et le sommet de la cécité spirituelle, c'est de ne pas reconnaître Jésus comme fils de Dieu. Et Dieu les juge sévèrement. Ensuite, Jésus se retrouve devant Pilate, le gouverneur romain. Il a un échange avec Pilate. Vous pourrez lire dans les évangiles. L'échange tourne autour de la question de la vérité. Jésus lui dit, il demande à Jésus, tu es le roi des Juifs. Jésus lui dit, tu le dis, tu le dis. C'est pas moi qui le dis, mais c'est toi-même qui le dis. Et Jésus lui dit, c'est la vérité. Et Pilate lui rétorque, mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Parce que Pilate ne sait pas qu'il a en face de lui la vérité. Et Pilate, malgré les conseils de sa femme, qui a eu une vision sur ce qui se passe, Pilate ne va pas avoir le courage de relâcher Jésus. Parce que, souvenez-vous, c'est un homme politique. C'est un homme politique. Il a peur de la révolte de la foule qui est en face de lui. Il a peur de la foule. Et pourtant, c'est lui qui a le pouvoir. Mais il a peur de la foule. C'est quand même curieux. Mais il est surpris par le positionnement de Jésus parce qu'il dit à Jésus, mais tu ne réponds plus, c'est moi qui ai le pouvoir de vie ou de mort sur toi. Jésus lui dit, mais mon royaume n'est pas d'ici. Si mon royaume était d'ici, les anges auraient combattu pour moi. Mais Jésus a rappelé aux disciples que l'heure est venue où les forces du mal, les ténèbres, vont couvrir la terre. Et là, Satan a une certaine puissance à ce moment-là. Lors du jugement, Satan a une puissance parce que les cœurs sont devenus extrêmement durs. Ils n'écoutent même pas quand Jésus répond. Ils sont dans une position dans laquelle Jésus doit mourir. Et donc, ils vont porter trois accusations. Ça, c'est les prêtres, les grands prêtres, les anciens vont porter trois accusations. Ils vont dire que Jésus refuse de payer l'impôt. Il pousse les gens à ne pas payer l'impôt. Ils vont dire que Jésus suscite la révolte dans le peuple. Et enfin, ils vont dire, Jésus se prend pour un roi. Voilà les trois accusations qu'ils portent devant Pilate. Trois accusations. Mais dans ces trois accusations, qu'est-il de vrai? Lorsqu'on demande à Jésus, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Qu'est-ce qu'il répond? Lorsqu'on demande à Jésus, il faut chasser les Romains, ces gens qui nous dominent. Jésus rappelle aux disciples que la relation essentielle, elle ne se situe pas au niveau de la terre, au niveau du monde. La relation essentielle se situe au niveau céleste. La libération est d'abord spirituelle. Enfin, vous avez déjà rencontré des hommes libres dans ce monde. Il y en a beaucoup. Quand vous les voyez, oui, moi je suis humaniste, je crois dans les valeurs humaines, je crois en la raison. C'est écrit dans la charte européenne d'ailleurs. C'est bien. Mais quelle est ta situation face au péché? Toi qui dis que tu es libre, où en es-tu avec le péché? Pilate n'a pas la force de dire que c'est injuste de condamner Jésus. Et que fait-il? Il se lave les mains. Vous voyez comment l'homme veut toujours avoir un argument. Il me fait penser à Adam avec Ève quand Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. J'ai mangé le fruit parce que c'est la femme que tu m'as donnée. Si cette femme n'était pas là, je n'aurais pas mangé le fruit. Vous voyez comment la nature humaine, on a une capacité d'essayer de fuir nos responsabilités. Et voilà ce que fait Pilate. Mais il y a une autre chose que Pilate va faire qui est très surprenante. C'est qu'il va faire écrire sur une plaque en trois langues. Celui-ci est le roi des Juifs. Eh oui. La même accusation qu'on a dit au départ, c'est la même accusation qui va apparaître lorsque Jésus va mourir. Et c'est une accusation de vérité, puisque cette accusation, personne ne l'enlève. Et aujourd'hui encore, Jésus est proclamé comme roi des Juifs. Et vous devez comprendre que dans le terme juif, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas uniquement les Juifs. Là, on parle du peuple de Dieu. Donc, Jésus est le roi du peuple de Dieu. Ensuite, il y a un autre qui entre dans l'histoire, c'est Hérode. Parce qu'en fait, c'était une région à domination romaine, mais les Romains avaient quand même laissé des rois. Mais ces rois ne tenaient pas trop la route. Un coup, on va mettre le frère, après on va mettre le demi-frère. Parce qu'en fait, ces rois n'arrivaient pas à diriger. Et Hérode, depuis longtemps, voulait voir Jésus. Lorsque Jésus arrive, il est content, il se dit, bon, je vais pouvoir poser mille et une questions à ce Jésus. Mais Jésus ne répond pas. Quand Hérode lui parle, Jésus ne répond pas. Et Hérode et sa cour commencent à se moquer de Jésus. Ah, il ne parle plus, et pourtant il faisait beaucoup de miracles, ce gars-là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Hérode oublie que Jésus avait déjà donné un nom. Vous voyez, Jésus est quelqu'un d'extrêmement précis. Jésus appelait Hérode le renard. C'est un renard. Il est dans son palais, il a sa petite cour, il vit bien, il mange bien, il ne se soucie de personne d'autre que de lui. À quoi ça sert de répondre à un renard? Et d'ailleurs, en termes, quand vous voyez les animaux, les renards ont un comportement particulier. Jésus l'a appelé le renard. Ensuite, Jésus va se retrouver devant la foule. Je vous rappelle que la même foule, en début de semaine, avait accueilli Jésus. C'est la même foule. Ils ont accueilli Jésus triomphalement. Jésus entre dans Jérusalem. Tout le monde se met à crier, Alléluia, fils de David, fils de David. En fin de semaine, la même foule, avec quelques prêtres, avec quelques anciens juifs, crie, libérez Barabbas. C'est la foule qui crie, hein? Libérez Barabbas. Alors si on pouvait revoir la séquence avant, après, on peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ça, c'est aussi la nature humaine. Cette nature où, à un certain moment, le dimanche, je suis très attaché à la parole de Dieu et la semaine. Est-ce que je suis toujours chrétien? Vous voyez comment la nature humaine est faite? Il crie « Libérez Barabbas ». Ensuite, il y a un autre acteur qui va entrer en ligne de compte, ça paraît beaucoup plus dans Matthieu, c'est Judas. Judas qui allait trahir Jésus. Judas qui a pris l'argent, mais qui est reparti dans le temple pour aller jeter l'argent. Et Judas qui va commettre ce qu'il ne fallait pas faire, il va se suicider. Il va se suicider. Il va se suicider. Ensuite, il y a les disciples. Alors les disciples, il y en a quelques-uns qui ont disparu. Ils étaient avec Jésus. Je vous rappelle que l'un d'eux, Pierre, était très motivé pour dire, mais Seigneur, si on vient te prendre, moi je serai avec toi, je me battrai, je mourrai avec toi. Quand Pierre fait ça, il me fait penser à moi à un certain moment. Mais quand la difficulté arrive, quand la situation arrive, mais c'est celui-là qui renie. Les trois quarts des disciples avaient disparu. Dans la foule, il y avait des disciples, mais c'était beaucoup plus des femmes. Vous voyez un clin d'œil de l'histoire, hein? Comment Jésus, c'était des femmes qui criaient « Libérez Jésus !»« Libérez Jésus !» Où étaient-ils, Jean, Thomas, tous les douze là? Où est-ce qu'ils étaient? Mais une minorité de disciples sont restés attachés à Jésus et sont restés, notamment sa mère, sont restés pour dire « Libérez Jésus !» Après, il y a un personnage surprenant, Barabbas. Barabbas qui est un révolutionnaire. C'est un peu un Karl Marx dans l'action, on va dire. C'est un révolutionnaire. Bon, Lui, il veut chasser les Romains, il veut vraiment que les Juifs soient épanouis. Donc, ils sont même allés jusqu'à tuer quelqu'un pour leur révolution. Mais à ce moment-là, la foule va crier que c'est lui qu'il faut libérer. Il faut libérer Barabbas, pas Jésus. Et pourtant, il n'y a pratiquement pas d'accusation contre Jésus. Mais on veut que Barabbas soit libéré. Voyez-vous, cette image est une image extrêmement forte. Parce qu'il fallait que Barabbas soit libéré. Parce qu'il fallait que Jésus aille à la croix. Parce qu'il fallait que Jésus prenne la place du pécheur. Ici, Barabbas représente le pécheur. Et il y a substitution entre celui qui porte le péché et celui qui a fait le péché. Et voilà le nom que porte celui qui, au départ, ne connaissait pas Jésus. Ton nom est Barabbas. Notre nom a été Barabbas. Nous méritions la mort. Mais la mort éternelle, puisque par le péché nous avons offensé Dieu. Donc quand on offense Dieu, on n'a pas accès à Dieu. Dieu est saint, je le rappelle. Trois fois saint. Même ta pensée est péché devant Dieu. Et voilà Barabbas qui était destiné à mourir. Jésus prend sa place. Jésus prend la place du pécheur. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est vraiment agréable de voir le plan de Dieu, comment Dieu agit avec puissance. Et Dieu va prendre, Jésus va prendre la place de Barabbas pour que Barabbas soit libéré. Jésus a pris ta place à la croix pour que tu sois libéré. Et si ce matin tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour l'instant tu t'appelles Barabbas. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es disciple qui crie de libérer Jésus. Mais peut-être es-tu Hérode. C'est possible que tu sois Hérode. Peut-être es-tu Pilate. C'est possible que tu sois Pilate. Peut-être es-tu, alors là c'est un peu difficile pour un ancien de l'annoncer, mais peut-être es-tu ancien du peuple juif et accuses-tu Jésus. C'est difficile. Vous voyez les positions qu'on peut avoir dans l'Église sans se souvenir qui nous sommes réellement disciples de Jésus-Christ. Alors si tu n'as pas encore choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à franchir ce pas et à l'accepter dans ta vie pour que ta vie change définitivement. Et si aussi, un autre point important, il y a peut-être un péché dans ta vie que tu n'arrives pas à maîtriser pour celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es libéré. Mais s'il y a un péché pour lequel tu n'arrives pas à te libérer, je t'invite à venir me voir à la fin du culte. Parce qu'en Jésus-Christ, lorsqu'on a accepté Jésus, il n'y a plus un péché qui peut nous garder enchaînés. Ce n'est plus possible. Sinon, c'est faux ce qui est écrit dans ce livre. Si c'est le mensonge qui t'attache, si c'est la pornographie qui t'attache, viens pour qu'on prie à la fin du culte. Parce que Jésus a déjà versé son sang, tu es libéré. Au nom de Jésus. La crucifixion de Jésus, c'est aussi un moment difficile. Christ arrive à la croix. Et là, il y a plusieurs personnages qui entrent encore en jeu. Il y a les soldats. Les soldats qui se moquent de Jésus. Les soldats, comme les anciens d'Israël, qui ont craché sur Jésus, eux aussi crachent sur Jésus. Les soldats qui mettent une couronne d'épines à Jésus. Les soldats qui enlèvent les habits de Jésus. Ils enlèvent les habits à Jésus. Vous vous rendez compte? Jésus se retrouve nu dans une cour. Ce sont des images fortes. Le Créateur de l'univers est à la merci du peuple des ténèbres pour que nous soyons sauvés. Mais cette couronne, c'est pour que tu aies une couronne de vie. Ce manteau qu'on remet, qu'on enlève et qu'on en met un autre à Jésus, c'est pour que tu sois couvert par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, Dieu ne peut pas supporter le péché et il fallait que quelqu'un paye pour le péché. Lisez la destruction de Sodome et Gomorre. Ne confondez pas de Dieu. Dieu est amour, c'est vrai. Mais Dieu est aussi justice. Alors s'il t'attrape sur la justice, dans Sodome, c'était très douloureux. Mais il fallait que quelqu'un souffre. Il fallait que la colère de Dieu s'abatte. Et la colère de Dieu s'est abattue sur Jésus-Christ. L'agneau de Dieu. Jésus a accepté, hein? L'agneau de Dieu, il est parti. Comme un agneau, vous voyez quand on emmène un agneau à l'abattoir, il pleure pas. On m'a dit que les chevaux pleurent. Bon. Mais l'agneau, il pleure pas, il y va. Jésus est parti à l'abattoir. Et juste avant, dans le jardin de Gethsémané, vous pourrez lire dans Luc 22, 42 à 44, Jésus prie, il dit, « Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, humanité de Jésus. » Mais non pas ma volonté, mais ta volonté, divinité de Jésus. Il cherche la volonté de Dieu. Et surprenant, un ange vient fortifier Jésus. C'est surprenant. Un ange vient fortifier Jésus. Parce que notre corps, ce corps a besoin d'être fortifié. Il faut le comprendre ça. Jésus dit, l'esprit est disposé, mais c'est la chair qui est faible. Votre esprit est disposé à servir Dieu, mais votre chair est faible. Et pour que votre chair devienne forte, il faut que votre esprit soit encore plus fort. Et pour que votre esprit soit encore plus fort, vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez prier tous les jours. Vous devez lire tous les jours. Vous devez chanter des cantiques tous les jours. Sinon, vous ne serez pas assez fort. Jésus est fortifié avant d'aller à la croix. Vous rendez compte? Jésus est fortifié avant d'aller à la croix. Donc, Jésus t'emmène à être fortifié avant de passer dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve. Parce que si la tentation arrive et que tu n'es pas fortifié et que tu n'es pas assez nourri, mais c'est le même qui a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est une illusion de penser que nourrir ce corps suffit. Ça ne suffit pas. Il faut nourrir ton âme, il faut nourrir ton esprit. Parce que vous savez, l'esprit, c'est le lien avec Dieu. L'âme, c'est le lien avec la terre. Et le corps n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur, donc de l'âme et de l'esprit. Si l'esprit domine, ben vous dominerez votre âme, vous dominerez votre corps. Mais si l'esprit ne domine pas, mais vous allez tout de suite tomber dans le péché. Jésus ne tombe pas parce que justement l'esprit est attaché à Dieu. Notre esprit doit être attaché à Dieu. Alors il y a des séquences variables dans la journée d'attachement. Le matin peut-être on est à 98, à midi on est à 50, vers l'après-midi on descend à 40, mais peut-être le soir on remonte à 70. Mais l'objectif est de rester à 100. Il faut rester attaché à Dieu. Pendant 3 heures, la terre va trembler. Les gens vont ressusciter. Les gens vont ressusciter. Vous vous rendez compte, même quand Jésus meurt, il y a d'autres témoignages qui apparaissent. Il ressuscite des gens. Pendant trois heures, Jésus souffre l'agonie. Jésus souffre l'agonie. Il a 2 brigands autour de lui. Il y en a un qui délire complètement. Mais il y en a un qui se rend compte que sa vie a été un échec. Et il y en a un qui accepte à ce moment. Vous voyez, même à des moments particuliers, il est en train de mourir, il sauve des vies. Et c'est le même qui dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mais comment peut-on croire que c'est un homme? C'est pas possible. Mais tu es en train de te faire tuer, tu pries pour des gens, tu emmènes des gens au salut. Mais c'est délirant. C'est pas un homme. Ça ne peut être qu'un Dieu. C'est impossible qu'un homme se comporte de cette façon. Et le pire, c'est que lorsqu'il est à la croix, il va prononcer des phrases, mais des phrases bibliques. Souffle le martyr à la croix. Il dit, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le psaume 22:2. Ensuite, il va dire une autre chose. Je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23:46. C'est le psaume 31:6. Il va dire une autre chose, tout est accompli. Daniel 9, 24. C'est fou quand même. il est en train de mourir, il cite la parole de Dieu. Mais franchement, à chaque fois, moi, quand je lis les évangiles, quand je lis la vie de Jésus, je suis impressionné. Impressionné. Oui, il est Dieu. C'est pas possible qu'un homme puisse fonctionner comme ça. C'est pas possible de voir autant de puissance, autant de puissance. Et Jésus va faire une autre grâce. Il y a quelqu'un qui se retrouve là, à qui on va dire, viens porter la croix de Jésus. C'est Simon de Cyrène. Qui passait par là, les soldats le prennent. Oh, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Viens là, viens, tu vas. Tu vois. Voyez-vous la grâce qu'il a eue? C'est une grâce. Ah, mais c'est une grâce de porter la croix de Jésus. Mais c'est une grâce de rencontrer Jésus. Eh bien, Simon de Cyrène, sa vie va changer parce qu'il va porter la croix avec Jésus. Et c'est un passage qui nous rappelle que l'homme, dans l'épreuve, reçoit différemment le Seigneur. Lorsqu'on n'est pas dans l'épreuve, on ne reçoit pas le Seigneur de la même façon que quand on est dans l'épreuve. Vous savez, aujourd'hui, les endroits où il y a le plus de conversions dans le monde, ce sont les endroits où on persécute le plus les chrétiens. En Iran, il y a des milliers de gens qui se convertissent. En Kabylie, il y a des milliers de gens qui se convertissent. En Irak, il y a des milliers de gens. Et pourtant, il y a Daesh. Hein. Bon, moi, quand je les vois à la télé, ils n'ont pas l'air sympathiques. Mais il y a des gens qui se convertissent dans ces lieux-là. Vous vous rendez compte? En Corée du Nord. Alors, vous avez vu leurs dirigeants, les Coréens. Mais je veux dire, en Corée du Nord, les gens se convertissent. Moi, j'ai vu une image d'un jeune Irakien qui devait se faire pendre parce qu'il refusait de renoncer à sa foi, mais il était en train d'embrasser ses bourreaux. Mais c'est pas possible. Face à la souffrance, le Seigneur donne du zèle à ses enfants. C'est vraiment une grâce. C'est une grâce de voir ça. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Nous voulons t'aimer aussi, Seigneur. Nous voulons t'aimer. Tout ce qui a été dit, je termine là-dessus. Le temps qui nous est imparti est... C'est la parole de Dieu, c'est trop bon. C'est vraiment, on découvre des choses, c'est trop merveilleux de voir comment Dieu a agi pour que nous ayons cette possibilité d'être avec lui ce matin. Dieu est vraiment bon. Tout ce qui a été vécu était déjà écrit, voyez-vous. Tout ce qui a été vécu était déjà écrit. La Bible compte plus de 600 prophéties dans la Bible. Celle de Jésus est une des prophéties que la Bible compte. Et dans cette prophétie, il était déjà écrit dans l'Ancien Testament que Jésus allait venir. Genèse 3:15, depuis le début, c'était déjà écrit qui sera descendant d'Abraham. Genèse 12:7, qui sera de la tribu de Judas. Genèse 49:10, qu'il séjournera en Égypte. Osée 11:1. Qui naîtra à Bethléem, Michée 5:11, qu'il sera trahi, Psaume 41:10, qui sera vendu, Zacharie 11, versets 12 à 13, qu'il sera abandonné des siens, muet comme un agneau, Ésaïe 53, 7, qu'il sera condamné par les autorités, Psaume 2, 1 à 2, qu'il vaincra Satan, Psaume 110, versets 1 à 2, qu'il sera frappé, Ésaïe 50, verset 6, qu'il sera abandonné du Père, quand il crie Élie. Le psaume 22, 2 était déjà écrit avant que Jésus ne soit là. Qu'il aura les mains percées, les pieds percés, psaume 22, 17. Tout ce qui est dans Ésaïe 53, vous avez beaucoup de détails sur la mort de Jésus-Christ. Tout ce qui arrive a déjà été écrit. Et vous voyez comment Dieu est bon. Dieu a montré par la prophétie et tout s'est réalisé comme la prophétie l'avait dit. Et ce matin, le Seigneur te demande où en es-tu avec lui? Où en es-tu avec ton Dieu? A-t-il 100% de la place qu'il doit avoir dans ta vie? L'a-t-il choisi? As-tu choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Où en es-tu dans la lecture de la parole de Dieu? Où en es-tu dans la mise en pratique de ce que tu apprends? Es-tu prêt à souffrir pour Jésus? Je vous rappelle que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que dans notre arrière-plan,